Salut ma gang de parents modernes, j'espère que vous allez bien. Juste avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je devais vous dire que l'épisode 22 d'aujourd'hui, c'est la dernière épisode de la saison 1. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu et on se retrouve à la fin du printemps pour la saison 2 d'Apprivoiser l'enfance, les doigts dans le nez, le balado, le podcast, avec plus de beaux contenus. Puis d'ici là, si jamais vous avez des suggestions de sujets, ben je vous invite à nous écrire sur nos différentes plateformes, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram ou par courriel. Alors je vous dis à très bientôt et sur ce, je pars l'épisode 22. Bonne écoute! Salut, salut! Alors, on est de retour avec Joanie Loisel, qui est une psychoéducatrice, pour notre podcast spécial dédié à l'arrivée d'un nouveau bébé. Donc, si t'as écouté l'épisode la semaine dernière, on a discuté de l'avant-bébé, plutôt de la grossesse, de ce qu'on pouvait faire, puis éviter de faire pour bien préparer notre enfant à l'arrivée d'un bébé, pour éviter de lui transmettre trop de stress. On a discuté de ce qu'on pouvait faire, puis de ce qu'il fallait aussi éviter de faire pour bien préparer notre enfant à l'arrivée d'un bébé. Donc cette semaine, on poursuit notre topo, mais on s'attaque plus à l'après-bébé. Ok, tu dis comme ça, j'ai quasiment l'air de présenter un épisode de Walking Dead. On s'attaque à l'après-bébé!
On s'attaque!
Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler de comment ça se passe une fois que le nouveau-né est dans la famille, quelles réactions peuvent être normales de la part du plus grand ou des plus grands, comment on peut aussi intervenir en fonction des différentes réactions qui se passe dans la famille. Bref, aujourd'hui, on te donne des trucs pour faciliter ton quotidien puis celui de tes enfants après qu'une fois que le bébé est arrivé. J'en profite pour te dire que si t'aimes le style du podcast, si t'aimes te sentir compris, rassuré ou même plus outillé, parce que je pense qu'on n'est jamais assez outillé, ben mon cours offre une base vraiment solide, surtout pour t'aider à mieux comprendre tes enfants, à mieux comprendre certains comportements qu'ils peuvent avoir. Tu sais, quand on a 25 ou 30 ans d'expérience en arrière de la calotte, ben c'est normal qu'on se rappelle pas comment on voyait la vie quand on était enfant. Ce que je me rappelle, par exemple, c'est que quand je me faisais chicaner par mes parents, je me sentais pas comprise, je me sentais pas écoutée, puis mon Dieu, que dans ces moments-là, j'aurais donc voulu avoir un parent qui me comprend. Quand j'étais jeune, j'avais une idée assez précise de ce que j'aurais voulu que mes parents fassent différemment pour être un peu plus conscients de moi et de mes besoins, pour qu'on se comprenne mieux, puis qu'on ait une plus belle dynamique, une plus belle relation, puis que ça me donne le goût aussi de coopérer un peu plus puis de leur faire plaisir. Puis je pense sincèrement que c'est ce genre de parent-là que tu peux être en comprenant mieux la perception puis les intentions de ton enfant à travers leur comportement. Puis, ben, toutes ces belles explications-là, puis toutes les stratégies concrètes qui vont avec sont enseignées dans mon cours « Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez ». J'aborde plusieurs sujets qui pourraient vraiment faciliter ton quotidien, donc je t'invite à aller consulter la description du cours sur la plateforme wikit.ca. Il y a d'ailleurs un chapitre sur l'arrivée d'un bébé dans une famille, mais c'est de l'information qui est différente de tout ce qu'on va parler aujourd'hui puis qu'on a parlé la semaine prochaine. Et ça va venir, par contre, compléter parfaitement le podcast qu'on fait aujourd'hui. Donc, j'enchaîne. Bébé est là. Youpi! Tout le monde est en santé. Tout le monde se porte bien. Vous vous êtes habitué tranquillement, pas vite, une journée à la fois. Mais tu remarques que ton grand, il est comme boudeur. Il est différent que d'habitude. Il a même peut-être pas l'air de s'intéresser du tout au bébé. Pourtant, il avait tellement hâte, il était tellement excité à l'idée d'avoir un petit frère, puis tu sais, vous vous étiez bien préparé. Puis là, ben, tu comprends pas trop ce qui se passe. Pourquoi il est comme ça? Tu le reconnais plus. Je sais pas si tu te souviens, mais dans un autre podcast, j'ai comparé le nouveau bébé à un nouveau coloc.
Ben, moi, j'ai tellement aimé cette analogie-là. Vas-y, je veux que tu la répètes.
Fait que oui, c'est ça, je vais la répéter parce que on m'en parle souvent de cette analogie-là. Les parents qui me disent qu'ils l'ont écouté sont comme « aïe aïe, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça ». Fait qu'imagine-toi que t'as 21 ans, t'es à l'université, tu vis en appartement, puis bon, c'est difficile là, de payer ton logement puis de payer l'université, ça coûte cher, fait que t'as besoin d'un coloc pour arriver à payer ton loyer. pas ton coloc meilleur ami, là, pas ton wingman, partner in crime, Batman and Robin, là, que tu connais depuis toujours, mais plus genre la seule personne qui a répondu à ton annonce de recherche que t'as mis, tu sais, de colocataire, que t'as mis sur le babillard à l'université. Fait que ça veut dire que tu le connais pas. Tu sais rien de lui à part qu'en principe, il est étudiant, tu l'espères, puis qu'il va payer la moitié du loyer. Ça aussi, tu l'espères.
Tu l'espères fort.
Oui, c'est ça, c'est pas mal ça le but. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne connais pas cette personne-là. Vous avez, pour le moment, rien en commun, à part de partager la même air commun, tu sais, la même douche, vous partagez la même cuisine, vous partagez le même air, puis vous payez le même loyer. Il parle pas vraiment bien ta langue, puis toi, tu parles pas vraiment bien la sienne, fait que vous parlez pas, puis quand vous parlez, vous comprenez pas vraiment bien. Franchement, c'est pas la meilleure expérience de ta vie. On te l'avait pas vendu comme ça, tu sais. Puis ce que tu trouves le plus difficile dans tout ça, c'est que, ben, t'es pogné avec lui au quotidien, puis qu'en plus, ben, tes amis, puis ton chum ou ta blonde, ils l'adorent, OK? C'est l'amour fou. Les gens qui viennent, ils viennent chez toi pour te voir, mais finalement, ils veulent juste être avec lui parce que, ah, il est tellement cool, puis il est tellement fin, tu sais, surtout au début, là, surtout au début. Ben, c'est peut-être pas l'expérience à laquelle tu t'attendais, puis t'es déçu. T'es déstabilisé, t'es peut-être même insécure parce que tu te demandes est-ce que tes amis aiment plus être avec lui qu'avec toi finalement, puis tu sais, t'as-tu fait quelque chose de pas correct pour que tout ça ait changé? Puis oui, tu peux être jaloux, puis tu peux peut-être même avoir peur, puis tu peux être triste, puis tu peux être en maudit, fait que tu boudes. Puis ben la dernière chose que t'as envie de faire en ce moment, c'est de t'intéresser à ton coloc. Fait que je sais pas si tu te rappelles de notre petit coco, de la situation de tantôt, là, tu sais, que soudainement, il a changé d'humeur, puis qu'il était boudeur, puis qu'il s'intéressait pas au bébé, alors qu'il avait si hâte au début. C'est un fait, l'arrivée d'un nouveau bébé, c'est pas rien, ça change énormément la dynamique familiale, puis l'enfant doit apprendre à partager l'amour de ses parents, le temps de ses parents, ses jouets, sa maison, avec une petite personne qu'il connaît pas. Fait que, et là, mon analogie, c'est un peu comme s'il accueille quelqu'un qui connaît pas, qui parle pas la même langue, qui comprend pas super bien, puis qui doit partager tout ce qu'il a, faut qu'il partage ses parents, son amour, son attention. Fait que oui, un enfant peut être hyper enchanté au début, mais quand finalement ça arrive, la réaction est différente de ce à quoi peut-être tu t'attendais comme parent. Fait que ce serait quoi les réactions chez nos enfants auxquelles on pourrait s'attendre? Je ne dis pas qu'ils vont toutes survenir, là, mais c'est quoi les réactions qui pourraient arriver? Joannie, peux-tu nous éclairer un peu là-dessus?
Bien, il peut arriver toutes sortes. Il peut arriver de tout, honnêtement. Le spectre est vraiment large. Mais juste avant d'aller là-dessus,
oui.
Je voulais faire un petit plus sur ce que tu disais, parce que l'analogie, c'est avec des adultes. Puis si on la compare avec des enfants, en général, les enfants sont un petit peu plus égocentriques, dans le sens où ils sont centrés sur leurs besoins à eux, dans le « ici et maintenant, tout de suite, je le veux, oui, tout de suite ». Alors, il n'y a pas cette compréhension-là de « ouais, peut-être que… » Non, non, c'est comme « oui, mais moi, je veux ça tout de suite, puis là, ben, puis je ne l'ai pas, là, ça ne marche pas
ouais. ».
Donc ça m'amène aussi à dire… On parle de jalousie, souvent on entend ce mot-là. En bas âge, c'est pas tant de la jalousie, c'est plus comme de la tristesse, de la perte en quantité de son parent. Fait que, ça peut se traduire comme en jalousie, mais c'est pas de la jalousie à l'état pur.
Mm-hmm.
C'est pas contre le bébé, c'est plus comme parce qu'il perd un avantage. Il peut être plus irritable, il peut être plus sensible, il peut avoir des grosses émotions ou inversement, se renfermer sur lui-même, puis s'isoler, être plus toute seule. Des enfants qui sont plus sensibles, par exemple, au bruit, ben ils savaient pas trop là, c'était quoi les pleurs du bébé, mais ça peut être très fort en décibels des pleurs de bébé. Alors, un enfant qui est plus sensible au niveau auditif va peut-être avoir tendance à s'isoler plus loin et à jouer tranquille parce que ça le bouleverse, autant de bruit.
Ouais.
Alors, c'est beaucoup d'émotions, la gamme est vaste. Il peut arriver tout. En fait. Puis ça peut être, finalement, il veut toujours être avec vous, il veut toujours vous aider. Tellement too much que vous faites comme « OK, là, j'aimerais savoir un petit peu de recul. Ici, un petit peu d'aide, c'est peut-être correct. Trop, je taboute. » tout peut arriver.
Ouais.
On ne sait pas ce qui va arriver. Alors, tu sais, vraiment, quand on dit « moment présent », on est là, moment présent, on ne sait pas ce qui va arriver. même si on s'est super bien préparé, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, on respire.
Oui. Puis, ça m'amène aussi à dire que, tu sais, justement, ce que tu dis, c'est que les enfants peuvent vivre des grosses émotions, peuvent être en colère, peuvent être tristes ou peuvent même être dérangés par le bébé par rapport à vis-à-vis à une hypersensibilité. Ça peut amener l'enfant aussi à avoir des gestes impulsifs, comme taper l'enfant ou peut-être même le bébé ou peut-être même lui lancer quelque chose. Ou tu sais, je sais pas tous les gestes qu'il peut faire, mais ils peuvent en faire beaucoup. Puis des fois, dans la tête d'un parent, quand on regarde ça d'un œil extérieur, on peut percevoir facilement ça comme, ben, il se venge, tu sais, sur le bébé ou il veut lui faire mal parce qu'il l'aime pas. Mais il faut faire extrêmement attention parce que, je vais pas parler en détail du développement du cerveau, mais en gros, là, l'enfant, à ce niveau-là, un enfant en bas d'âge scolaire fera pas des liens tout petit enfant, il ne va pas faire un lien. Son intention, ce ne sera pas de blesser intentionnellement l'enfant pour lui faire mal ou de lui dire quelque chose pour lui faire mal ou même dire à vous, tu sais, son but quand il dit une parole, c'est pas, il n'y a pas un désir de vengeance en arrière de ça. C'est vraiment plus l'impulsivité qui est là par rapport à une grosse émotion ou une réaction peut-être même devant une hypersensibilité. S'il est agressé par un bruit, ben ça se peut que la claque parte. Pas parce qu'il veut faire mal au bébé, juste parce que lui, dans son corps, ça revient à ce que tu disais tantôt. C'était-tu dans cette... Oui, c'est ça, ça revient à ce que tu disais tantôt sur l'égocentrisme, sur le fait que l'enfant, il est centré sur ses propres besoins, puis sur lui, ben il va réagir, lui, pour se protéger ou en réaction avec des choses qu'il ressent dans son corps. Mais c'est pas dans le but de faire mal au bébé, ou c'est pas... Fait que c'est important, non, comme parent, de pas réprimander, puis pas punir ça, mais plutôt d'accueillir notre enfant, d'avoir une discussion avec lui quand il sera calme, mais d'avoir une discussion avec lui plus adaptée sur le fait que, tu sais, c'est difficile, puis oui, ça crie fort, puis je te comprends, puis essayer de trouver peut-être plus des petites solutions avec lui pour comment on va faire quand l'enfant il pleure, puis que ça le dérange, quand le bébé pleure, puis que ça le dérange, tu sais, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, tu te sentes pas incommodé, mais je vous recommande vraiment pas d'aller dans les punitions, les retraits, les choses comme ça.
Non, mais de toute façon, derrière chaque comportement de l'enfant, il y a un besoin ou un désir qui n'est pas répondu. Au lieu d'aller comme un peu dans le même sens que tu dis, tu sais, aller comme non, tape pas ton frère, ta sœur, ben à quoi ça répond ce comportement-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette petite tape-là ou cette grosse tape-là? Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire ça m'écœure quand elle régurgite, ou c'est elle pleure tellement fort que ça me fait mal aux oreilles, ou maman, je m'ennuie de toi. Essayez d'aller savoir c'est quoi, puis de répondre à ça. Aller c'est au-delà, ça, en fait, du comportement. Puis le mot d'ordre avec l'arrivée d'un nouveau bébé, c'est de l'adaptation.
Exact.
C'est de l'adaptation pour vous, les parents. C'est de l'adaptation souvent pour la maman qui vit un bouleversement hormonal intense, pour papa aussi qui cherche sa place, ou la conjointe, peu importe, mais c'est de l'adaptation aussi pour vos cocos qui sont déjà là. Alors, tu sais, on baisse nos attentes, on est indulgent avec nous-mêmes, on est indulgent avec nos enfants. Puis c'est normal que, même si notre attachement, on l'avait dit dans la semaine passée, qu'on travaillait l'attachement, on voulait que ça soit le plus sécure possible, bien, même si notre attachement est super sécure, ça se peut qu'avec l'arrivée du bébé, des enfants peuvent devenir insécures. Oui. Puis ils peuvent avoir des comportements qu'on appelle de type régression. Boire du lait, vouloir boire du lait, prendre son ancienne suce. Lui aussi vouloir faire du cododo avec ses parents parce que c'est pas parce qu'il se dit je veux vous écœurer tout le monde. Ben non, c'est pas ça qu'il se dit. Il se dit, ben si le bébé il a de l'attention, puis il fait ça le bébé lui. Ma mère, elle s'occupe vraiment beaucoup du bébé, puis boit du lait. Ben, c'est inconscient, il se dit pas ça de façon très consciente. Il se dit, ben moi aussi, je veux du lait. Puis comme ça, ma mère aussi, elle va prendre soin de moi.
Exact.
Une des façons, mon autre, j'ai un petit truc pour ça aussi, là. Pour tout ce qui est au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui est super sécure pour les enfants, c'est tout ce qui est routinier. Alors, on essaye de garder le plus possible la même routine qu'avant l'arrivée du bébé. Je donne l'exemple, si c'était papa qui donnait le bain puis qui lisait l'histoire avant que le bébé naisse, ben on va s'organiser pour que ça soit à peu près les mêmes heures, puis que ça soit encore papa qui donne le bain puis qui lise l'histoire. ça va favoriser le réconfort puis la sécurité aussi de l'enfant, puis il va tendre à être moins insécure. Puis les comportements de type régression, ben on les laisse faire.
Oui, c'est ça, parce que
on rit pas d'eux, là.
Puis on dit comportement de type régression, mais c'est pas, tu sais, c'est pas... est-ce que c'est la même chose quand on dit, genre, ah, mon enfant, il est régressé, tu sais, mettons, il je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple. Il faisait toutes ses belles nuits, puis là, tout d'un coup, il fait plus de nuit. Ça, c'est un comportement de type régression.
Oui, c'est la même chose parce qu'il est arrivé dans son développement des peurs. Ah, tout d'un coup, j'ai peur qu'on m'abandonne, qui n'était pas là avant.
Ouais.
Fait qu'on dit que c'est de type régression, mais il ne régresse pas vraiment. C'est l'inverse. Parce qu'il a maturé. C'est pour ça que cette peur-là, elle a émergé. Donc, on les appelle de type régression parce que c'est plus imagé, parce qu'ils viennent à reculer avec des comportements qu'ils avaient, qu'ils n'avaient plus et qu'ils recommencent. Mm-hmm. Mais on rit pas de ça, on fait pas comme « ben non, t'es plus un bébé, tu bois pas de lait. » « Ben oui, toi aussi, tu voudrais du lait. T'aimerais-tu ça que moi aussi je te prenne? » Comme quand t'étais un petit bébé, sûrement qu'il va dire oui. Il va avoir le besoin. C'est ce que vous allez faire, c'est que vous allez, ce qu'on disait tantôt, aller au-delà du comportement, puis aller répondre aux besoins qui est en dessous du comportement.
Exactement.
Ce qu'il veut, c'est sûrement l'attention de votre part. Donnez-lui.
Voilà. Puis si vous pouvez pas lui donner en ce moment, parce que si vous êtes en train de faire un soin au bébé ou si vous êtes en train de l'allaiter, on s'entend que c'est pas là le moment pour lui donner de l'attention, mais vous pouvez lui dire « Regarde, je comprends, je t'ai vu, j'entends que tu voudrais être avec moi, passer un moment avec moi. Là, je donne du lait à Noah. » Puis dans 5 minutes, si tu veux, là, on va pouvoir faire un jeu ensemble. À quel jeu t'aimerais jouer? » On peut lui dire pendant le moment, regarde, là, c'est pas le temps, mais tantôt, on va le faire, puis prenez le temps de le faire avec lui.
Oui, c'est important. C'est important, surtout, de ne pas ridiculiser ces comportements de type régression-là. Ça, je le vois souvent, puis ça peut être, à la limite, néfaste et encore plus insécurisant pour les enfants, parce qu'ils se sentent pas compris. Tu le disais tantôt, ils ne se sentent pas entendus. Alors,
mais pas juste ça aussi, c'est que ça peut aussi affecter l'estime de l'enfant. T'sais, il peut peut-être se sentir comme quoi que ben, lui, il ne mérite pas cette attention-là ou qu'il n'est pas assez ou que c'est pas correct, c'est pas normal, qu'il n'est pas normal puis qu'il ne devrait pas demander ça. Il faut vraiment faire attention à tous nos petits commentaires. Les enfants
parce
sont
qu'ils font
très
des raccourcis.
Sensibles. Oui.
Mais ils font des raccourcis mentaux des fois qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est tout au niveau des perceptions. Hein. Puis des fois, ils n'ont pas le langage assez développé pour bien extérioriser tout ça ou l'introspection nécessaire pour tout le verbaliser. Alors, c'est de là l'importance de faire vraiment attention à vous, ce que vous dites comme parents.
Vraiment intéressant.
Voilà. Oui,
super.
Après ça, l'autre point, c'est que c'est normal... Normal, qu'il y a des périodes de désorganisation. Hein? Ça, c'est normal.
Oui.
Nous, comme parents, on va être désorganisés, là. Ça nous change dans notre routine, là. On est supposé de souper, d'habitude, c'est tout tranquille, ou souper, ou semi-tranquille, dépendant le niveau d'agitation des enfants. Mais là, finalement, à l'heure du souper, le bébé pleure, puis il y a des coliques, puis là, c'est plus ce qui s'était prévu. C'est normal qu'il y a des périodes de désorganisation. C'est normal aussi qu'il y ait une certaine rivalité qui s'installe. Je l'ai dit tantôt, plus le bébé est jeune, c'est pas tant de la rivalité entre la fratrie, c'est plus de la rivalité de temps d'attention.
Par rapport aux parents,
Par rapport aux parents, effectivement. Plus le bébé va grandir, là, va peut-être s'installer de la rivalité frère-sœur.
Oui, ou des conflits qui sont tout à fait normaux, qui sont tout à fait sains aussi, comme j'en parlais dans le dernier podcast, l'épisode de... 19, je crois.
Puis la dernière chose, en fait, que moi, je voulais ajouter, c'est que tout d'un coup, mettons, vous arrivez à la maison, et tout va bien. Moi, j'avais pas planifié ça, que ça allait aussi bien. Je m'étais fait un petit peu de scénario d'horreur, je capote. Tout va super bien. Là, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, pouf! Tout d'un coup, là, ça marche plus. C'est normal, ça aussi. Pourquoi? Parce que ça se peut que votre enfant ait traversé un nouveau stade. Le bébé est un nouveau stade, puis que c'est ce changement-là qui fait réagir l'aîné. Par exemple, le bébé se met à ramper. Il rampe, là, puis là, il saccage un peu la tour de bloc. Ah ben là, non, ça marche pas pantoute, là. Là, je t'aime plus.
Ouais.
T'aimes plus, tu brises mes jeux. Ah, ben, j'aimais mieux quand finalement tu pleurais et que tu buvais juste du lait, toi, mon petit frère ou ma petite sœur.
C'est ça.
Mais c'est normal, ça aussi. Alors, c'est évolutif, c'est pas statique. Il va avoir des moments plus doux, des moments plus ardus. Ça aussi, ça fait partie de la normalité de l'arrivée d'un nouveau bébé.
Oui, puis je pense que ça revient à ce que tu disais tantôt, hein, adaptation. On vit ça une journée à la fois, puis on s'adapte, puis on prend le temps de les observer aussi, parce que des fois, ce qu'on fait, c'est que tout va vite, puis on prend pas le temps d'observer, puis d'essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi mon enfant, tout d'un coup, réagit comme ça, puis pourquoi il change. Prenez le temps de les regarder, puis d'essayer de vous mettre dans leur peau un peu pour comprendre ce qu'ils vivent, puis ça va vraiment vous aider à être plus empathique par rapport à ce qu'ils vivent aussi, puis de mieux les comprendre, puis de mieux les accueillir là-dedans. C'est important d'accueillir puis de reconnaître toutes ces émotions-là, de leur faire comprendre qu'ils ont le droit d'avoir peur, qu'ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit d'être fâchés ou d'être déçus, puis on peut faire ça en se plaçant à leur hauteur, premièrement, pour avoir vraiment un beau contact. Puis, on peut parler ouvertement de ces émotions-là. Si, par exemple, vous voyez justement qu'il y a un petit changement d'humeur par rapport à une situation qui est survenue, justement, une situation comme avec la tour ou une autre situation, juste que c'est survenu soudainement puis que toi, t'arrives pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, mais tu peux lui dire, tu sais, « Ah, être grande sœur, c'est difficile, hein, des fois, puis c'est normal que tu te sentes fâchée ou c'est normal que tu te sentes triste, même si tu sais pas pourquoi. » Parce que l'enfant, il a pas besoin d'expliquer toujours pourquoi il se sent comme ça. Il vit des grosses émotions, puis c'est comme ça, puis c'est correct, puis il faut l'accepter. Puis on peut lui dire, « Quand tu sens des grosses émotions dans ton corps, ben tu peux me le dire. Je vais toujours t'aimer, puis je vais te comprendre, puis je vais être là pour t'aider. » Le plus on en parle de ça, le plus on accepte ces émotions-là, le plus on fait sentir à l'enfant qu'il a le droit de les vivre, puis que c'est normal, bien plus on envoie le message à l'enfant que ses émotions sont acceptées, que lui il est accepté, même quand il se sent comme ça, parce que ça va faire en sorte qu'il va se sentir sécurisé. Tu sais, des fois, les enfants, quand ils se sentent insécures, ils vont aussi avoir des comportements de tester nos limites, tester nos réactions. Puis c'est sûr que si on réagit très fort en disant « t'es méchant, puis t'as tapé le bébé », parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'est tester, est-ce que si je tape le bébé, est-ce que maman va me regarder, puis là, elle va me parler, puis là, tu sais, je vais vivre un moment avec elle, même si c'est de l'attention négative. Des fois, c'est suffisant pour un enfant pour avoir un gain, le gain étant l'attention. Fait que l'enfant, les enfants peuvent faire ça, peuvent avoir des comportements-là pour aller chercher cette attention-là, puis si on leur dit qu'ils sont méchants d'avoir fait ça, ben ça va les affecter.
Et on reprend l'exemple de la tour, okay, que le bébé défait, puis là, ça le met dans tous ses étapes, effectivement, il va aller comme le pousser. Mm-hmm. Et là, vous allez intervenir sur ce comportement-là. Et c'est là, des fois, qu'il faut revenir avec notre cœur d'enfant, dire « ouais ». Moi aussi, j'avoue que si j'avais travaillé super fort sur un super gros projet pour le travail, puis que le bébé venait de tout renverser sa compote de pommes dessus, ben peut-être que je serais remplie d'émotions moi aussi.
Oui.
Puis peut-être que j'aurais comme été un peu plus sec avec l'enfant, mais peut-être plus sec à ramasser mes papiers. Ben c'est différent, mais peut-être que votre enfant aussi, lui, a le droit, puis c'est sa façon très malhabile et un petit peu impulsive d'aller directement pousser le bébé.
Absolument, puis il faut pas oublier, oui, puis il faut pas oublier aussi que nous, les adultes, on va s'auto-réguler, on va ramasser nos papiers plus fort ou on va s'exprimer verbalement, mais que les enfants à cet âge-là, ils ont pas les mots pour expliquer ça, ils ont peut-être même pas les mots pour expliquer comment ils se sentent.
Pourquoi
ils sont fâchés, tu sais, fait que c'est là qu'il faut être vraiment doux, en fait, avec nos enfants, parce que ce qu'ils vivent, c'est très gros, puis faut les accepter, faut leur donner beaucoup de douceur, puis ça sert à rien, tu sais, de leur dire qu'ils sont pas corrects, que ce qu'ils font c'est pas correct, ou que leurs émotions sont pas correctes. Au contraire,
ouais, faut être vraiment indulgent.
Exact, exactement. Puis là, on parle beaucoup des émotions puis des comportements chez les enfants, mais moi, je veux reprendre le temps de parler de nos émotions à nous, les mamans ou même les papas. Tu sais, quand on vient de vivre un accouchement, c'est fort en émotion, un accouchement, ça peut s'être bien passé comme ça peut s'être pas bien passé. Mais peu importe, il y a aussi le fait qu'il y a une grosse dose d'hormones Il y a des hormones qu'on n'a plus, puis là, il y a des nouvelles hormones qui arrivent, on est fatigué, on vit une joie immense, une grande fierté. On peut aussi vivre une tristesse ou une déception ou une peur, une angoisse de perdre du temps avec notre autre enfant. Tu sais, mon Dieu, comment je vais faire pour donner du temps également, puis c'est difficile, puis finalement, mon bébé, il dort pas, puis là, comment je vais faire pour tout séparer ça en deux, puis... Puis, tu sais, leur offre être équitable envers tout le monde, puis tout ça. Puis, mais c'est important que vous preniez le temps de vivre ces émotions-là à votre façon.
Parce ouais, que, clairement.
Tu sais, on le dit, là, les émotions chez les enfants sont normales, il faut les accepter, mais ça commence aussi par les vôtres, tu sais. Faut normaliser nos émotions. Quand on se sent pas bien, quand on se sent stressé, quand on a peur, quand on est triste, quand on est déçu, peu importe l'émotion qu'on vit, ça sert à rien l'internaliser, merci, ça sert à rien de l'internaliser. À ce moment-là, puis là, c'est vous qui vous connaissez le mieux, vous pouvez faire du yoga, on peut appeler notre mère, notre amie pour pleurer, pour ventiler, ça peut même être avec notre conjoint. Moi, ce que j'aime faire quand j'ai du moton, là, tu sais, quand j'ai de la peine, puis que, tu sais, des fois, ça sort pas parce que des fois, il y a un moment où est-ce qu'on peut éclater, des fois, on éclate, là, mais, tu sais, des fois, quand on est avec nos enfants, on essaie de finir notre journée, puis à la fin de la journée, ce que j'aime faire, c'est, moi, je me mets le film le plus romantique qui éterne, genre de notre et là, je pleure toutes les larmes de mon corps, ça me fait tellement du bien. Après ça, je me sens comme « Ouh, ok, soulagée ». Il y a plein d'affaires qui sont sorties à travers ça, là. C'était pas juste le film. Mes émotions, ils ont sorti là, puis je me suis donné le droit, tu sais, de les laisser mes larmes sortir. Puis si ça aide à cause qu'on met un film, mais tant mieux, puis c'est correct qu'on les laisse sortir. On peut écrire tout ce qu'on pense dans un journal. L'important, c'est juste... de prendre soin, de s'écouter, d'être à l'écoute de ces émotions-là, de les vivre, pas en les...
Les accueillir puis de les normaliser. C'est normal que vous aussi, vous viviez des émotions. Ça me fait penser, moi, quand ma deuxième est née, j'ai eu un moment de grande tristesse et de grande culpabilité parce que je me disais, je suis plus capable de donner 100%. J'avais, à ce moment-là, l'impression de passer de 100% d'attention à mon aîné à 50-50. J'étais comme, j'en donne... ni à l'une ni à l'autre au maximum de ce que je suis capable. Et j'avais un super grand sentiment de culpabilité, puis c'est resté quand même quelques semaines. Mais effectivement, le fait de l'accueillir, de le nommer, de le relativiser avec des personnes qui nous est chères, ben ça nous fait comme nous sentir mieux qu'au lieu de le ruminer à l'intérieur de nous.
Là. Exactement. Tu sais, parlez-en à des gens qui peuvent vous comprendre aussi, peut-être, qui ont vécu un peu la même chose que vous. Des fois, il y a des gens qui vivent certaines situations, puis que là, après ça, tu sais, on parle, puis c'est comme « Ah, toi aussi, t'as vécu ça, mais je pensais que j'étais la seule, tu sais, ben, c'est ça, parlez-en, ça fait du bien, tu sais, vous pourriez être surpris de la quantité de gens qui vous comprennent, dans le fond, puis qui peuvent peut-être même vous donner des trucs ou des conseils de comment eux, ils ont vécu ça, puis tu sais, comment, qu'est-ce qui les a aidés. C'est important de prendre soin de nous, parce que, oubliez pas que vous êtes votre propre outil, hein, fait que, vous êtes le parent, puis vos enfants, ils ont besoin le plus possible d'avoir des parents calmes, des parents patients, et surtout des parents disponibles. Fait que si vous êtes à bout, là, si c'est difficile, ben déléguez, t'sais, demandez de l'aide. Essayez pas d'être Wonder Woman, puis de vous dire, ben non, faut que je sois forte, faut que je fasse tout toute seule, puis mes émotions, je les vivrai une autre fois. Non, acceptez, vivez vos émotions adéquatement, puis déléguer à vos enfants, déléguer surtout pas à vos enfants, déléguer à votre conjoint ou à vos parents. Je sais que c'est compliqué dans une situation de confinement, là, mais là, on peut se servir de notre jugement aussi dans certaines conditions, mais faites-le en même temps, vous allez offrir un tellement beau modèle à vos enfants comme quoi que, ben non, tu sais, c'est correct, on a le droit de les vivre, nos émotions, puis il y a plein de moyens qu'on peut prendre pour le faire, puis c'est normal. Tu sais, si votre enfant voit, ah, maman, elle est triste, puis tu sais, elle pleure et elle pleure parce qu'elle trouve ça difficile, ben c'est aussi de normaliser que, ben lui aussi, quand il pleure, c'est correct, puis c'est normal, puis il a le droit, puis tu sais, la peine vient, on la vit, puis après ça, elle part, puis tout va mieux. On va totalement sauter du coq à l'âne, puis c'est correct parce qu'on a une quantité de temps limitée, mais je vais aller dans quelque chose qui est important d'éviter de faire, donc d'éviter de demander à l'enfant de surveiller le bébé ou de faire des tâches qui sont pas de sa responsabilité. J'en ai parlé la semaine passée, quand je parlais d'offrir un modèle là, à travers le jeu de comment on peut tenir l'enfant, comment on peut s'occuper de lui, tout ça, laver. Puis je disais que même si on fait ça, ça reste un jeu, puis c'est pas sa responsabilité. Vos enfants auront jamais la responsabilité de s'occuper des autres enfants. Puis si on fait ça, ça pourrait leur faire vivre de l'anxiété. Donc la job des enfants, là, c'est de jouer puis d'explorer. C'est pas d'être un troisième parent. Ce serait peut-être pas l'idéal, mettons, de dire à votre enfant, là, faut que tu restes assis puis que tu surveilles ton frère pendant que je vais aller faire pipi. Tu sais, c'est pas son travail de surveiller l'enfant. Ça pourrait lui mettre énormément de pression. Fait que vous pouvez juste lui dire, OK, ben là, je m'en vais faire pipi, puis au pire, amener le bébé avec vous dans une petite chaisière à côté de vous, mais faites pas sentir l'enfant responsable de la sécurité du bébé. Si par contre l'enfant désire s'impliquer dans des tâches, ben vous pouvez lui offrir des tâches qui sont appropriées à son âge ou à ses capacités ou surtout même à ses intérêts. Puis je vous dirais d'essayer de faire en sorte que, tu sais, vous connaissez vos enfants, vous connaissez ses forces, vous connaissez ses limites, essayez de lui faire vivre des réussites ou assurez-vous même, je dirais, assurez-vous de lui faire vivre une réussite. C'est pas là le moment de lui demander de mettre une couche parce que, assurément, là, à moins que ce soit un enfant plus vieux, là, mais un enfant en bas de 3-4 ans ne sera pas capable de mettre une couche adéquatement, même plus vieux que ça, ne sera pas capable de mettre une couche adéquatement à un bébé. Il peut vous aider, par exemple, en attachant le velcro. Ça, il peut faire ça. Il pourrait aussi aller chercher les lingettes. Il pourrait aller chercher des débarbouillettes. Il y a plein de choses que votre enfant peut faire. Il peut peut-être tenir un pied ou des trucs comme ça. Mais demandez-lui pas des grosses tâches qui sont pas appropriées. Ensuite, un autre truc complètement différent. Vous pourriez lui offrir un petit bac avec des jeux spéciaux qui sont utilisés dans des moments où est-ce que vous devez faire des soins au bébé. Fait que ce bac-là, c'est pas un système de récompense, là. C'est pas genre, OK, si tu as été gentil, tu vas avoir ce jeu spécial-là. C'est vraiment un jeu qui est dédié à lui pour le faire patienter, en fait, pour lui faire vivre un moment positif puis agréable quand que vous êtes en train de changer une couche. Si pour lui, c'est un peu plus difficile, surtout si les enfants sont en âge rapproché. En même temps, ça permet de vous rassurer aussi de savoir, OK, mon enfant, là, je sais, il est assis avec son petit jeu spécial de figurines, il est bien. Bon, pendant ce temps-là, moi, je peux aller changer ma couche, je peux aller donner le bain ou peu importe qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Puis ce jeu-là, ce qui serait intéressant, c'est qu'il soit utilisé juste dans ce moment-là pour que à chaque fois, votre enfant soit content de le faire. Puis que ça,
sinon il va s'essouffler, ce jeu-là, si vous le donnez tout le temps.
C'est ça. Fait qu'on veut juste venir créer des petits moments spéciaux pour votre enfant aussi, pour quand vous avez des soins à faire, surtout si vous êtes seul là, à la maison. Si vous êtes deux, ça peut être un peu plus facile avec deux parents de s'organiser ensemble pour que l'autre parent joue avec l'aîné. Mais si vous êtes seul à la maison, c'est un petit conseil que je donne parfois aux parents. Et évidemment, on n'en parlera jamais assez, là, mais... on en a parlé, le lien d'attachement, puis l'importance de donner de l'attention à vos enfants, on en a parlé tantôt, mais j'en reparle encore. C'est hyper important d'accorder des moments seul à seul avec les autres enfants tous les jours. Puis là, je parle pas de 3-4 heures par jour. Ce qu'on dit, c'est entre 10 et 60 minutes. Mais si 10 minutes, là, 15 minutes, c'est ce qui vous rend confortable. Si c'est ce que vous avez de disponible dans votre journée, bien c'est un 10-15 minutes là, que vous vous assisez avec votre enfant seul à seul. Pas de télévision, pas de téléphone, pas de frère, pas de soeur, pas de bébé, pas rien, juste vous, dans le moment présent. Puis ça n'a pas besoin d'être une activité, une super activité. Ça peut être juste de vous inclure dans un jeu qu'il veut faire. Ça peut être un jeu de société. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que vous passez un 10, 15, 20 minutes avec votre enfant, seul à seul. Puis ça peut être hyper bénéfique, premièrement, parce qu'en fait, ça lui donne beaucoup d'attention. Ce qu'il va rechercher dans le jour, parce que moins un enfant a de l'attention, hein, venant du fait qu'il y a un deuxième enfant, bien plus il va en rechercher. Donc là, on vient prévenir ça, tous les petits comportements qui pourraient être une recherche d'attention et beaucoup d'autres problématiques. Je pense juste au fait que des fois, il y a des enfants, quand ils sont en période de sommeil, qui vont se réveiller souvent, qui vont avoir de la misère à s'endormir, sinon parce que ils vont chercher votre attention, ils vont chercher beaucoup d'attention au moment du sommeil, de s'endormir. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, il y a de l'insécurité et tout ça, mais ils vont aller chercher cette attention-là. Puis si vous offrez un moment, un 10-15 minutes, surtout à la fin de la journée, ben vous venez comme de remplir un peu sa jauge d'attention puis d'affection, ce qui fait en sorte que ça pourrait prévenir plusieurs petites problématiques au niveau du comportement. Pas des problématiques en soi, là, mais qui pourrait venir prévenir plusieurs choses. Voyons.
Ben, des petites difficultés.
Des difficultés, c'est ça, qui pourrait venir prévenir des petites difficultés ou juste, en fait, vous faire vivre un super beau moment. T'sais, si on oublie là, les problématiques, là, c'est juste un moment one-on-one ensemble que vous allez chérir, puis que vous allez vous créer. Peut-être que vous allez à toutes les fois jouer à un même jeu, puis ça va rester dans vos souvenirs. C'est juste pour consolider, en fait, le lien que vous avez avec votre enfant, pour pas qu'il se sente mis de côté. Voilà.
Exact. Puis, tu sais, avec ces moments-là, dépendamment du jeu avec lequel vous allez jouer avec votre enfant, parfois, c'est juste de s'immiscer dans son jeu puis le suivre son rythme puis dire « OK, t'aimerais-tu ça, je prenne un bonhomme? » OK, puis c'est lui qui lead un peu le jeu ou c'est un jeu de société. Mais là, on peut mettre des mots là-dessus en disant « Hey, ça, c'est vraiment un jeu de grand. Ouais. Le bébé, il fait pas ça des jeux de même. Mm-hmm. » C'est vraiment un privilège de grand. Puis là, on est en train de le conscientiser aux avantages qu'il a avec son statut d'aîné. Parce qu'il y a des privilèges qui sont associés à être aîné. Hein? On peut jouer à des jeux de société avec ses parents. Le bébé ne peut pas faire ça, lui. Fait que tranquillement, pas vite, il va comprendre que lui, il a un gain là qui n'est pas le gain du bébé. C'est autre chose. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi, tranquillement, pas vite, par les agissements du bébé, on peut verbaliser, mettre des mots, puis lui faire sentir que le bébé l'aime. Hey, regarde, le bébé, il te regarde, il te trouve bon. Quand tu sautes, tu danses, regarde, je pense là, que le bébé, il te trouve vraiment bon. Puis, ah, il rit. Le bébé, il rit, il te trouve drôle. Fait que tranquillement, pas vite, lui souligner que le bébé l'aime, ce que ça va faire, c'est qu'il va s'attacher à lui. Il va trouver qu'il est important pour lui, puis il va l'aimer lui aussi en retour. Une des grosses affaires qui est importante pour moi, c'est comme parent, de vous aider à discerner la différence entre égalité et équité. Les enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins. Alors, quand je disais tantôt, on fait sentir à l'aîné qu'il y a des privilèges d'aîné, parce que le bébé, il n'a pas les mêmes besoins que le grand. Alors, c'est la différence entre égalité et équité. Égalité, c'est exactement la même chose. Puis, il y a des parents, avec la meilleure volonté du monde, qui tombent dans ce piège-là, qui vont au magasin, ils vont acheter un pyjama pour le bébé, puis ils vont faire comme « Ah, ben là, l'aîné, il va se sentir... Je vais y acheter lui aussi un pyjama. » Mais non, on n'a pas besoin de faire ça parce que à la longue, ça va créer même l'inverse, c'est de l'insécurité parce que ça ne répond pas à son besoin à lui. Il n'en a pas besoin de pyjama. Oui. Et là, c'est un exemple qui est plutôt loufoque, mais peut-être que lui, son besoin, c'est autre chose. Peut-être que lui, il a besoin d'une nouvelle tuque parce qu'elle est un peu effilochée, c'est pas d'un pyjama donc il a besoin. Alors, c'est de discerner la différence entre les deux. Qui est vraiment important comme parent. Une des images qu'on peut trouver sur Internet, là, si vous cherchez le mot « égalité » et « équité », c'est un papa avec deux enfants à bas âge, un plus grand, un plus petit, qui regarde une partie de baseball, puis ils ont des petits bancs. Égalité, ils ont la même grandeur de banc. Donc, le papa voit bien, l'enfant, l'aîné, voit un peu bien. Puis le bébé, ben là, lui, il a le visage d'enclôture. Il voit rien du tout parce qu'il n'est pas assez grand. L'équité, ben c'est le papa, il n'a pas besoin de banc parce qu'il est assez grand. Lui du milieu, l'aîné, ben lui, il a un petit banc pour bien voir. Puis le bébé, lui, il a deux bancs pour bien voir la partie. Donc, c'est vraiment important de discerner la différence puis d'ajuster vos interventions pour répondre aux besoins de chacun de vos enfants. Ils n'ont pas les mêmes besoins.
Oui, c'est vraiment une image qui est très forte. Je t'invite à aller la chercher parce que moi, quand Joanie me l'a envoyée, j'ai trouvé qu'elle m'a vraiment parlé. Puis là, j'ai toute la différence entre l'égalité puis l'équité a pris vraiment tout un sens dans ma tête. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que non, mais c'est vrai, tu sais, dans le fond, c'est pas parce que ma plus grande a le besoin ou ma plus petite a besoin de des choses que j'ai besoin d'en acheter pour l'autre aussi. Tu sais, au final, on fait juste en plus encombrer nos garde-robes, puis il n'y a pas d'utilité. Donc, mais je vous invite vraiment à aller chercher cette image-là. Et là, je pense que Joannie et moi, on pourrait vraiment continuer à parler très longtemps. C'est un sujet qui est hyper vaste.
Pendant des heures.
On pourrait en parler pendant des heures. C'est un sujet qui est très vaste. Mais j'espère vraiment qu'on a su. En fait, je suis convaincue qu'avec toute l'information qu'on vous a donnée cette semaine, la semaine passée, je suis convaincue qu'on vous a aidé du moins juste à vous rassurer. Puis si c'est juste ça qu'on a fait, vous rassurer, ben tant mieux pour nous, ce sera mission accomplie. Puis si on vous a donné des trucs en plus, ben c'est encore mieux pour nous puis pour vous. Fait qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Et moi, ben, je vous souhaite à tout le monde une super belle semaine. Et ben, Joannie.
Merci de m'avoir invitée à ton podcast. Les deux podcasts, en fait.
Oui, ça me fait. Ben, merci à toi pour vrai d'avoir accepté cette invitation-là. Si toutes les personnes qui m'écoutaient à toutes les semaines, je vous invite à aller voir le profil de Joannie, soit sur Instagram, Joannie Loisel, psychoéducatrice, ou sur Facebook aussi, Joannie Loisel, aussi psychoéducatrice. Elle n'a pas encore un site web, mais ça s'en vient.
Ça s'en vient,
mais pour vrai, allez la suivre, c'est une perle et elle a des conseils toujours hyper pertinents, tous ses partages sont pertinents. Alors voilà, c'est une petite perle qui devrait s'ajouter à votre boîte à outils là, quand vous avez besoin de référence. Vous allez voir Joannie, puis...
Merci, c'est gentil.
Ça me fait plaisir. Fait que c'est ça. Ben, je vous dis à la prochaine, tout le monde.
Bye bye.
Bonjour.